Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika,
bonjour galériennes, galériens, bonjour auditrices et auditeurs de Livres et Amis. Nous sommes le mercredi 30 juillet à Marseille, dans les studios de Radio Galère. Tout va bien, Jules est en face, Françoise est à côté de moi. Et nous allons aujourd'hui lire la suite et la fin, si nous arrivons au bout, de l'histoire d'une mouette et du chat qui lui a appris à voler, de Luis Sepúlveda. Donc, vous vous souvenez peut-être du début de l'histoire. Je vais vous faire un petit résumé. En attendant, puisque nous le disions, nous sommes à Marseille. C'est toujours l'été marseillais. Il y a surtout un beau programme pour les activités en plein air, les projections, les concerts. Il y a des tas de choses au Mucem. Il y a des tas de choses dans les parcs des différents arrondissements. Donc, l'été marseillais continue, profitons-en, avec un peu moins de mistral que ces derniers jours, on espère. Et puis voilà, tout va bien et on va donc en promenade sur la mer, pas trop mazoutée, espère-t-on, avec la mouette et le chat qui lui apprend à voler. Donc, résumé des chapitres précédents, comme disent les gens chics. Résumé de la première partie que nous avions lue mercredi dernier, le 23 juillet. Le résumé, c'est ça. C'est une mouette Kerga qui vole au-dessus de Hambourg, vers le sud, mais se fait mazouter dans une nappe de pétrole en plongeant pour pêcher de succulents harengs. Elle réussit à voler jusqu'à un balcon de la ville où elle expire, mais auparavant, elle rencontre Zorbas, le chat grand, noir et gros. Et elle pond un dernier œuf et elle demande au chat Zorbas de lui faire 3 promesses solennelles. De ne pas manger l'œuf, eh oui, de protéger l'œuf, de protéger le poussin qui en sortira et de lui apprendre à voler. Le chat Zorbas se fait aider par d'autres chats du port. Et pour remplir ses promesses, il n'est pas seul, il est entouré de ses camarades chats. Mais il est seul dans un appartement où, précisément, il reçoit chaque jour la visite d'un ami de la famille, puisque tous les autres membres de la famille sont partis en vacances. Alors le chat Zorbas protège, oui, l'œuf, puis le poussin de la curiosité de tous les éventuels ennemis extérieurs. Et avec ses copains chats du port, il va pouvoir, vous le saurez à la fin, mais on a de bonnes chances déjà, il va pouvoir remplir ses 3 promesses faites à la mouette Kerga. Et nous lisons donc aujourd'hui, mercredi 30 juillet, la deuxième partie qui commence par le portrait du chat en mère poule. Ah, le chat, grand, noir et gros, passa des jours couché contre l'œuf, le rapprochant avec toute la douceur de ses pattes de velours chaque fois qu'un mouvement involontaire de son corps l'éloignait de quelques centimètres. Ce furent des jours longs et inconfortables qui lui parurent parfois totalement inutiles, car il s'occupait d'un objet sans vie, une sorte de pierre fragile, même si elle était blanche, tachée de bleu. Un jour, ankylosé par le manque de mouvement, puisque suivant les ordres du chat Colonello, il n'abandonnait l'œuf que pour aller manger et se rendre à la caisse où il faisait ses besoins, il eut la tentation de vérifier si un poussin de mouette grandissait vraiment à l'intérieur de l'ogive de calcaire. Il approcha alors une oreille de l'œuf, puis l'autre, mais il n'entendit rien. Il n'eut pas plus de chance lorsqu'il essaya de mirer l'intérieur de l'œuf en le plaçant à contre-jour. La coquille blanche tachée de bleu était épaisse et on ne voyait absolument rien à travers. Toutes les nuits, les autres chats, colonel, au secrétario et je sais tout, venaient le voir. Ils examinaient l'œuf pour vérifier si ce que colonel appelait les progrès espérés se manifestaient. Mais après avoir constaté que l'œuf était le même qu'au premier jour, ils changeaient de sujet. Je sais tout ne cessait de regretter que son encyclopédie n'indique pas la durée exacte de l'incubation et que la donnée la plus précise qu'il ait réussi à trouver dans ses gros livres était que cela pouvait durer entre 17 et 30 jours, selon les caractéristiques de l'espèce à laquelle appartenait la mère. Couver n'avait pas été facile pour le chat grand, noir et gros. Il ne pouvait oublier le matin où l'ami de la famille, chargé de s'occuper de lui, avait pensé qu'il y avait trop de poussière par terre et avait décidé de passer l'aspirateur. Et tous les matins, pendant les visites de l'ami, Zorbas devait cacher l'œuf au milieu des pots de fleurs du balcon pour consacrer quelques minutes à ce brave type qui venait changer sa litière et ouvrir ses boîtes de nourriture. Il lui miaulait sa gratitude, se frôlait contre ses jambes et l'humain s'en allait en répétant qu'il était un chat bien sympathique. Le soir du 20e jour, Zorba somnolait et ne s'aperçut pas que l'œuf bougeait, lentement, légèrement, mais il bougeait, comme s'il voulait se mettre à rouler par terre. Un chatouillement sur le ventre le réveilla. Il ouvrit les yeux et ne put s'empêcher de sauter en l'air en voyant que par une fente de l'œuf apparaissait et disparaissait une petite pointe jaune. Zorbas prit l'œuf entre ses pattes de devant et vit comment le poussin donnait des petits coups de bec pour agrandir le trou et pour laisser sortir sa petite tête blanche et humide. « Maman !» cria le poussin de la mouette. Zorbas ne sut que répondre.
« Maman, maman !» cria le poussin qui avait quitté son œuf. Il était blanc comme du lait et des plumes minces, clairsemées et courtes couvraient à moitié son corps. Il essaya de faire quelques pas et s'écroula contre le ventre de Zorba. « Maman, j'ai faim » piailla-t-il en lui picorant la peau. « Qu'est-ce qu'il allait lui donner à manger ? Je sais tout n'avait rien miaulé à ce sujet. Il savait que les mouettes se nourrissaient de poissons. Mais d'où est-ce que lui, il allait sortir un morceau de poisson ? Zorba courut à la cuisine et revint en faisant rouler une pomme. Le poussin se dressa sur ses pattes mal assurées et se précipita sur le fruit. Le petit bec jaune toucha la peau et se tordit comme s'il était en caoutchouc et en se redressant, il catapulta le poussin en arrière en le faisant tomber. « J'ai faim, maman, j'ai faim !» cria-t-il en colère. Zorba, regrettant d'avoir vidé son plat avant la naissance du poussin, essaya de lui faire picorer une pomme de terre, ses croquettes. Avec les vacances de la famille, il n'y avait pas beaucoup de choix. Rien à faire. Le petit bec était tendre et se pliait comme contre la pomme de terre. Alors, dans son désespoir, il se souvint que le poussin était un oiseau et que les oiseaux mangeaient des insectes. Il sortit sur le balcon et attendit qu'une mouche se pose à portée de ses griffes. Il ne tarda pas à en attraper une et la donna à l'affamée. Le poussin la mit dans son bec, la serra et l'avala en fermant les yeux. « C'est bon, encore, maman, encore » cria-t-il avec enthousiasme. Zorba sautait d'un bout à l'autre du balcon. Il avait chassé 5 mouches et une araignée lorsque du toit de la maison d'en face lui parvinrent les voix connues des chats voyous qu'il avait rencontrés quelques jours auparavant. « Dis donc, regarde, le petit gros fait de la gym. Quel corps, c'est un vrai danseur, miaula l'un. Moi, je crois qu'il fait de l'aérobic. Quel joli petit gros, qu'il est gracieux et quel style. Hola, boule de graisse, tu vas te présenter à un concours de beauté ?» miaula l'autre. Les deux voyous riaient, à l'abri de l'autre côté de la cour. Zorba leur aurait volontiers fait goûter le fil de ses griffes, mais ils étaient loin, si bien qu'il revint vers l'affamée avec son butin d'insectes. Le poussin dévora les 5 mouches, mais refusa de goûter à l'araignée. Rassasié, il eut un hoquet et se blottit tout contre le ventre de Zorba. « Maman, j'ai sommeil. Écoute, je regrette, mais je ne suis pas ta maman, » miaula Zorba. « Bien sûr que si, tu es ma maman. » « Et tu es une très bonne maman, » fit-il en fermant les yeux. À leur arrivée, Colonello, secrétario, et je sais tout, trouvèrent le poussin endormi contre Zorba. « Félicitations, c'est un très joli poussin. Il pesait combien à la naissance ?» demanda je sais tout. « Qu'est-ce que c'est cette question ? Je ne suis pas la mère de ce poussin, » rétorqua Zorba. « C'est la question qu'on pose d'habitude. Ne le prends pas mal. C'est vraiment un joli poussin, » miaula Colonello. « C'est terrible, terrible, » miaula je sais tout, en posant ses pattes sur sa bouche. « Tu pourrais nous dire ce qui est terrible ?» demanda Colonello. « Le poussin n'a rien à manger, c'est terrible, terrible !» insista je sais tout. « Tu as raison. J'ai dû lui donner des mouches et je crois qu'il va très vite avoir encore faim, » miaula Zorba. « Secrétario, qu'est-ce que vous attendez ?» interrogea Colonello. « Excusez-moi, monsieur, mais je ne vous suis pas, » se défendit Secrétario.
« Allez au restaurant et ramenez une sardine !» ordonna Colonello. « Maman, qui c'est ?» cria le poussin en montrant les chats. « Maman !» il t'a dit « Maman !» Oh, c'est terriblement attendrissant, arriva à s'exclamer je sais tout, avant que le regard de Zorba ne lui conseille de fermer la bouche. « Bon, caro amico, tu as tenu ta première promesse, c'est bien. Tu es en train de tenir la deuxième. Eh bien, il ne nous restera plus qu'à tenir la troisième, » déclara Colonello. « La plus facile, lui apprendre à voler, » miaula ironiquement Zorbas. « Oh, mais on y arrivera, je consulterai l'encyclopédie, et le savoir viendra en son temps, » assura je sais tout. « Maman, j'ai faim !» coupa le poussin. Donc tout va bien pour notre poussin. On va continuer à lire son histoire, mais les aventures vont se présenter à la porte. Les difficultés commencèrent le lendemain de la naissance. Zorbas dut agir énergiquement pour éviter que l'ami de la famille ne découvre le poussin nouveau-né. Dès qu'il l'entendit ouvrir la porte, il retourna un pot de fleurs vide sur le poussin et s'assit dessus. Par chance, l'humain ne sortit pas sur le balcon et de la cuisine, on n'entendait pas les cris de protestation du petit. Donc, comme d'habitude, l'ami nettoya la caisse, changea la litière, ouvrit la boîte de nourriture et vint poser son nez sur le chat posé lui-même sur le balcon. « J'espère que tu n'es pas malade, Zorbas. C'est la première fois que tu n'accours pas quand j'ouvre une boîte. Et on dirait que tu caches quelque chose. Bon, enfin, à demain, chat fou !» Et s'il avait eu l'idée de regarder sous le pot ? Rien que d'y penser, Zorbas en eut mal au ventre et dut courir jusqu'à sa caisse. Zorbas recouvrait consciencieusement ses excréments lorsque les cris effrayés du poussin le ramenèrent sur le balcon. Et là, ce qu'il vit lui glaça le sang. Les deux chats voyous étaient devant le poussin. Excités, ils remuaient la queue et l'un le maintenait d'une griffe posée sur le croupion. Par chance, ils tournaient le dos à Zorbas et ils ne le virent pas arriver. Zorbas banda tous ses muscles. « Maman, au secours !» cria le poussin. « Dans les oiseaux, ce que je préfère, ce sont les ailes, » dit un voyou. « Là, elles sont petites, mais les cuisses ont l'air pas mal. » Zorbas sauta. En l'air, il sortit les 10 griffes de ses pattes de devant. Et en retombant entre les deux voyous, il fit cogner leur tête sur le sol du balcon. Ils essayèrent de se relever, mais ne le purent, car chacun avait une oreille transpercée par une griffe. « Maman, il voulait me manger !» cria le poussin. « Nous, manger votre enfant ?»« Mais non, madame, pas du tout !» miaula l'une des têtes plaquées au sol. « Nous sommes végétariens, madame, super végétariens !»« Je ne suis pas madame, imbécile !» miaula Zorbas en les tirant par les oreilles pour qu'ils puissent le voir. Et en le reconnaissant, les deux voyous eurent le poil qui se hérissa. « Vous avez un très joli petit, mon ami, ce sera un beau chat, » affirma l'un. « Oui, oui, quel joli chaton, » confirma l'autre. « Mais ce n'est pas un chat, c'est un poussin de mouette, imbécile !»« Mais je le dis toujours à mon copain, il faut avoir des enfants mouettes, pas vrai ?» déclara le premier. Zorbas décida d'en finir avec cette farce, mais les deux crétins devaient d'abord se souvenir de ses griffes. D'un mouvement décidé, il replia les pattes et les griffes, en effet, déchirèrent les oreilles des deux lâches. Miaulant de douleur, ils s'enfuirent en courant. « J'ai une maman très courageuse !» pépia le poussin. Zorbas comprit que le balcon n'était pas un endroit sûr. Il ne pouvait pas mettre le poussin dans l'appartement, parce qu'il aurait tout sali et l'ami de la famille l'aurait découvert. Il fallait chercher un endroit plus sûr. « Allez, viens, on va se promener, » miaula Zorbas, avant de le prendre délicatement entre ses dents. Ils se réunirent dans le bazar de Harry. Eh oui, vous vous souvenez, le bazar de Harry, le point de rencontre des chats. Ils décidèrent en effet que, puisque le poussin ne pouvait pas rester dans l'appartement de Zorbas, on essaierait de le mettre à l'abri dans ce bazar. Les risques étaient trop nombreux dans la famille, ainsi que les risques de visite des deux voyous, de l'ami, etc., etc. Les humains sont imprévisibles, alors avec les meilleures intentions du monde, ils peuvent causer de vrais malheurs, dit Colonel. Alors, ce poussin devrait vivre dans le bazar jusqu'à ce que Zorbas lui ait appris à voler. Zorbas irait chez lui tous les matins pour que l'humain ne s'inquiète pas et il reviendrait ensuite s'occuper du poussin. Bon, nous sommes d'accord là-dessus, c'est bien. Je sais tout avait à peine terminé sa phrase qu'il cherchait le mot « sexe » dans son encyclopédie. Il fallait d'abord savoir de quel sexe était le poussin pour lui trouver un nom et le nommer. Bon, jusqu'à là, ton encyclopédie ne nous a pas été très utile, maugréa Zorbas. Oh là là, il va falloir continuer à chercher. Qu'est-ce qu'on fait ? Maman, maman, à l'aide ! Entendirent-ils. Pendant que les chats se disputaient, le poussin qui se promenait au milieu d'oiseaux empaillés s'était soudain retrouvé face à un animal, pas empaillé du tout, lui, aux yeux rouges, qui lui barrait la route. Zorba arriva en trombe, et à cet instant précis, le rat, puisque c'était lui, tendait ses pattes de devant vers le cou du poussin. En voyant Zorbas, le rat s'enfuit vers une lézarde du mur. « Il voulait me manger !» cria le poussin en se serrant contre Zorbas. « Ah, on n'avait pas pensé à ce danger, il va falloir vraiment te surveiller tout le temps. » Bon, les autres chats revinrent. Oui, c'est vrai qu'il ne faut pas faire de concessions aux rats. Zorbas s'approcha de la lézarde. Il faisait très noir. « Peut-être que on pourrait négocier avec eux, » dit Zorbas. « Je veux voir ton chef, » miaula-t-il devant la lézarde. « Je suis le chef des rats, » lui répondit-on dans l'obscurité. « Mais non, si c'est toi le chef des rats, vous avez une allure de cafard, préviens ton chef. Je veux parler à ton chef. » Zorbas entendit le rat s'éloigner. Les griffes faisaient grincer le tuyau le long duquel il glissait. « Le chef va te recevoir dans la cave des coquillages, derrière le coffre du pirate. Il y a une entrée. » Zorbas descendit à la cave. Il chercha derrière le coffre, il écarta l'étoile d'araignée. « Ah, ça sentait pas bon. » « Suis les tuyaux d'égout !» cria un rat qu'il ne voyait pas. Il obéit. Il avançait en rampant et il sentait que sa peau s'imprégnait de poussière, de saleté et de sales odeurs. Zorbas supposa qu'il était en dessous de la rue et il y avait un rayon de lumière qui entrait par la grille de l'égout. L'endroit empestait. Mais enfin, bon. C'est alors que, dans une salle, il vit le chef des rats. Un grand rongeur à la peau sombre, couturé de cicatrices, et qui s'amusait à nettoyer les anneaux de sa queue avec une griffe. « Ah ah, eh bien, regardez qui vient nous voir, le gros chat grand noir !» couina le chef des rats. « le gros !» glapirent en cœur des dizaines de rats. « Je veux que vous laissiez le poussin tranquille !» miaula fermement Zorba. Hé hé, alors comme ça, les chats ont un poussin. Ah, je le savais. On raconte beaucoup de choses dans les égouts. On dit que le poussin, c'est délicieux. Délicieux, dirent tous les autres rats du cœur des rats. Et vous le mangerez quand il sera grand, sans nous inviter? Égoïste, couina le chef des rats. Égoïste, répétèrent les autres rats. Comme tu le sais, j'ai liquidé plus de rats que j'ai de poils. Alors, s'il arrive quoi que ce soit au poussin, vos heures sont comptées, affirma Zorbas avec autorité et sérénité. Cool poule de graisse, tu penses comment sortir d'ici ? On t'a laissé entrer, mais tu pourrais bien ressortir en pâté, menaça le rat. Pâté de chat, reprirent les autres rats. Alors Zorbas sauta sur le chef des rats. Il lui tomba sur le dos en lui tenant la tête entre ses griffes. Tu es sur le point de perdre tes yeux. Tes sbires vont peut-être faire de moi un pâté de chat, mais tu ne pourras pas le voir. « Alors, vous allez laisser le poussin tranquille ?»« Ah, comme tu es mal élevé !»« Bon, ça va, ni pâté de chat, ni pâté de poussin. On peut tout négocier dans les égouts, » couina le chef des rats. Négociant. Qu'est-ce que vous demandez en échange du respect de la vie du poussin ? Demanda Zorbaz. Le libre passage dans la cour. Colonello avait ordonné qu'on nous coupe le chemin du marché. Alors, nous voulons le libre passage dans la cour pour aller au marché. Libre passage dans la cour, reprit le cœur des rats. D'accord, vous pourrez passer dans la cour, mais la nuit, quand les humains ne nous verront pas. Nous, les chats, nous devons faire attention à notre réputation, déclara Zorbaz en lâchant la tête du chef des rats. Vous pourrez passer et vous laisserez tranquille notre poussin. Il sortit de l'égout Arculon, sans perdre de vue le chef des rats et les dizaines d'yeux rouges qui le regardaient, pleins de haine. Il leur fallut 3 jours pour arriver à trouver Vent Debout. Vent Debout, un chat de mer. Eh oui, il y a des chats de port et il y a des chats de mer.
Vent Debout était la mascotte du Hannes II, un puissant bateau de dragage chargé de nettoyer et d'enlever les écueils du fond de l'Elbe. L'équipage du Hannes II appréciait Vent Debout, un chat couleur de miel aux yeux bleus qu'il considérait comme un compagnon supplémentaire pendant les durs travaux de dragage du fleuve. Les jours de tempête, il le couvrait avec un ciré jaune à sa taille, semblable à ceux qu'ils utilisaient eux-mêmes, et Vent Debout se promenait sur le pont avec l'air sombre des marins qui affrontent le mauvais temps. Le Hannes II avait nettoyé les ports de Rotterdam, Anvers, Copenhague, et Vent Debout racontait des histoires amusantes sur ses voyages. Oui, c'était un authentique chat de mer. « Ahoy !» miaula Vent Debout en entrant dans le bazar. Le chimpanzé cligna des yeux perplexes en voyant s'avancer le chat qui remuait son corps en chaloupant de gauche à droite à chaque pas et qui ignorait l'importance de sa dignité de caissier de l'établissement. « Si tu ne sais pas dire bonjour, paie au moins l'entrée, sac à puce, glapit Mathias. « Idiot à tribord, par l'écrou du barracuda, tu m'as appelé sac à puce ? Sache que cette fourrure a été piquée de tous les insectes de tous les ports. »
Vent Debout, Vent Debout, ne me coupe pas le vent !» Et il suivit son chemin sans attendre la réponse du chimpanzé. En arrivant dans la pièce des livres, il salua depuis le seuil les chats qui s'y étaient réunis. Hé ! Miaula Vent Debout qui aimait miauler le dialecte à la fois riche et doux de Hambourg. Ah, tu arrives bien, Capitano, tu ne sais pas comme nous avons besoin de toi, répondit Colonello. Ils lui miaulèrent rapidement l'histoire de la mouette et des promesses de Zorbaz, promesses qui, ils le répétèrent, les engageaient tous, les chats du port. Vent Debout écouta, en hochant la tête, préoccupé. « Par l'encre du calamar, en mer il arrive des choses terribles. Parfois je me demande si quelques humains ne sont pas devenus fous. Ils essayent de faire de l'océan une énorme poubelle. » Je viens de draguer l'embouchure de l'Elbe et vous ne pouvez pas imaginer la quantité d'ordures que charrient les marées. Par la carapace de la tortue, nous avons sorti des barils d'insecticides, des pneus, des tonnes de ces maudites bouteilles en plastique que les humains laissent sur les plages, indiqua Vent Debout avec colère. Terrible, terrible! Si ça continue comme ça, bientôt, le mot pollution occupera tout le tome 16 de l'encyclopédie, s'exclama Je sais tout, scandalisé. « Bon, et alors, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour vous et pour ce pauvre oiseau ?» demanda Vent Debout. « Ben, toi seul qui connais la mer, peux nous dire si ce poussin est un mâle ou une femelle ?» répondit Colonello. Ils l'emmenèrent auprès du poussin qui dormait, rassasié après avoir réglé son compte à un calamar apporté par Secretario, qui, selon les ordres de Colonello, était chargé de son alimentation. Vent Debout tendit une patte, lui examina la tête et ensuite souleva les plumes qui commençaient à pousser sur sa queue. Le poussin cherchait Zorbaz de ses yeux effrayés. « Par les pattes du crabe, c'est une jolie petite qui un jour pondra autant d'œufs que j'ai de poils sur la queue !» s'exclama le chat de mer amusé. Zorbaz lécha la tête de Loisel pour la rassurer. Il regretta de ne pas avoir demandé son nom à la mère. Car si la fille était appelée à poursuivre son vol interrompu par la négligence des humains, il aurait été beau qu'elle porte le même nom. Si on considère que cette petite oiselle a eu de la chance, une bonne fortune, de tomber sous notre protection, je propose qu'on l'appelle Fortunada, la fortunée, déclara Colonel. Mais oui, par les ouïes de la Merlue, c'est un joli nom. Il me fait penser à une charmante mouette que j'avais rencontrée dans la mer Baltique. Elle s'appelait comme ça, Afortunada, et elle était toute blanche, miaula Vent Debout. Tous tombèrent d'accord sur le nom proposé par Colonello. Alors, nous te saluons et nous te baptisons Fortunada, la fortunée, amie des chats. Ahoy, ahoy, ce fut le nom du grand cercle des chats de port. Quand les touristes visitaient le bazar, suivant les instructions de Colonello, la petite mouette restait tranquille parmi les oiseaux empaillés, faisant semblant d'être l'un d'eux. Et le soir, quand le musée fermait et que le vieux loup de mer et le singe de garde se retiraient, alors elle se promenait de sa démarche maladroite d'oiseau de mer dans toutes les pièces, s'émerveillant devant les mille objets, ça suffit, que contenait l'antre du vieux Harry. Eh oui, pourquoi je dois voler ? Demandait Fortunada, les ailes encore toutes collées contre le corps. Parce que tu es une mouette et que les mouettes volent. C'est comme ça. Mais je ne veux pas voler. Je ne veux pas non plus être une mouette. Je veux être un chat comme vous et les chats ne volent pas, protestait Fortunada. Un jour, elle s'approcha du comptoir de l'entrée et fit une rencontre désagréable avec le chimpanzé qui était resté là. Ils se regardèrent en chat de faïence et finalement, c'est la mouette qui se retira. Ce soir-là, les chats s'étonnèrent que la petite mouette ne vienne pas manger son plat préféré. Il y avait encore des calamars que Secretario avait chapardés dans la cuisine du restaurant. Ils la cherchèrent et ce fut Zorbas qui la trouva, abattue et triste parmi les animaux empaillés. « Tu n'as pas faim, Fortunada ?» demanda Zorbas. « Il y a des calamars. » La mouette n'ouvrit même pas le bec. « Tu n'es pas bien, tu es malade ?» insista Zorbas, inquiet. « Tu veux que je mange pour que je grossisse ?» demanda-t-elle, sans le regarder. « Non, pour que tu grandisses et que tu sois forte et en bonne santé, » répondit Zorbas. « Oui, mais quand je serai grosse, tu inviteras tous les rats et tous les chats à me manger, » cria-t-elle, les yeux pleins de larmes. « D'où sors-tu toutes ces bêtises ?» miaula énergiquement Zorbas. Retenant ses sanglots, Fortunada raconta sa rencontre avec le singe. Le singe qui lui avait dit qu'en fait, on ne l'engraissait que pour mieux la manger. Oh, mais non, tu es une mouette, oui, ça c'est vrai, le chimpanzé a raison. C'est pour cela que nous t'aimons et que nous t'avons appelée Fortunada. Une mouette qui a été sauvée des eaux, sauvée de la moirée, sauvée du mazout, oui. Sauvée par ta maman. Donc tu es une mouette, une jolie mouette, nous ne te contredisons pas. « Mais nous voulons que tu deviennes, comme ta mère, une belle, grande mouette, libre. Nous n'avons jamais pensé à faire de toi un chat. Nous n'avons jamais pensé à te manger, puisque nous avons juré à ta mère de ne pas le faire. Donc, nous avons appris à apprécier, à respecter et à aimer un être différent. Il est très facile d'accepter et d'aimer ce qui nous ressemble. Mais aimer quelqu'un de différent, c'est toujours difficile. » Et tu nous as aidés à y arriver. Tu es une mouette, tu suivras ton destin de mouette et nous t'aiderons pour cela. Tu dois voler. Et quand tu arriveras, Fortunada, je t'assure que tu seras heureuse et alors tes sentiments seront pour nous les mêmes que les nôtres pour toi. Mais j'ai peur de voler, piailla Fortunada en se redressant. Quand ce sera le moment, nous serons tous ensemble avec toi. « Je l'ai promis à ta mère !» miaula Zorbas en lui léchant la tête. Alors, la jeune mouette et le chat grand, noir et gros se mirent à marcher. Lui, il lui léchait la tête avec tendresse et elle lui couvrait le dos d'une de ses ailes. Alors, tout va bien dans l'histoire de la mouette et du chat. On va écouter une chanson sur la pollution, justement, de Steve Waring, pour nous garder dans le mood Et puis après, nous verrons la fin de l'histoire du chat, de la mouette et du chat qui lui a appris à voler. À tout de suite.
La baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ses tuyaux. La baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ses tuyaux. Oh, 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 H2O. Elle a trouvé beaucoup de choses, elle a trouvé beaucoup de choses. Beaucoup de choses, mais pas de l'eau. Oh, H2O. La baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ses tuyaux. La baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ses tuyaux. Oh, 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 H2O. Elle a trouvé du détergent, elle a trouvé du détergent. Du détergent, beaucoup de choses, mais pas de l'eau. Oh, H2O, la baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ses tuyaux. La baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ses tuyaux. Oh, 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 H2O. Elle a trouvé un pétrolier, elle a trouvé un pétrolier. Un pétrolier, du détergent. Beaucoup de choses, mais pas de l'eau. Oh, H2O. La baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ses tuyaux. La baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ses tuyaux. Oh, 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 H2O. Elle a trouvé du DDT, elle a trouvé du DDT. DDT, un pétrolier, du détergent, beaucoup de choses, mais pas de l'eau. Oh, H2O, la baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ses tuyaux. La baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ses tuyaux. Oh, 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 H2O.
Mais un jour, cette pauvre baleine, ce n'est pas dans l'eau qu'elle a eu des problèmes de pollution. C'est dans l'air, car une centrale nucléaire là-bas a explosé. Et l'air de la Terre entière était radioactif.
Elle a trouvé un Tchernobyl, elle a trouvé un Tchernobyl.
Un pétrolier,
du détergent,
beaucoup de choses,
mais pas de l'eau.
Oh, H2O,
la baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ses tuyaux. La baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ses tuyaux. Oh, oh, oh,
oh, H2O.
La baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ses tuyaux. La baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ses tuyaux. Oh, 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 H2O.
H2O, H2O, H2O. Eh bien, oui, l'eau est polluée pour cette pauvre baleine bleue comme l'eau était polluée pour notre mouette. Kenga, avec qui l'histoire avait commencé. Oui, il y a pas mal de mazout dans l'eau, surtout dans la mer du Nord, mais hélas dans d'autres mers. Et puis, nous disait Steve Waring aussi, pas mal de pollution dans l'air. Bref, on est mal barré. Mais écoutez, c'est vrai qu'à Marseille, je vois jour après jour que la qualité de l'air est moyenne, voire détériorée. C'est pas génial, c'est vrai. Et puis, mais ça fait rien. Hein. Le Mistral, finalement, a de bon côté. Au moins, quand il souffle, les cochonneries s'en vont vers le large. Enfin, reprenons notre histoire de la mouette et du chat qui doit lui apprendre à voler. Parce qu'on en est là. On a notre petite mouette Fortunada qui a bien grandi et ben voilà, il faut s'occuper d'elle et il va falloir la faire voler.
Fortunata était là, sur le point de tenter son premier vol. Au cours de la dernière semaine, en effet, deux événements avaient fait comprendre au chat que la mouette désirait voler, même si elle dissimulait très bien ce désir. Le premier événement s'était déroulé un après-midi où Fortunata avait accompagné les chats prendre le soleil sur le toit du bazar d'Ari. Alors qu'ils étaient là à profiter des chauds rayons du soleil, ils virent planer au-dessus d'eux, très très haut, trois mouettes. Elles étaient belles, majestueuses, se découpant contre le bleu du ciel. Parfois, elles avaient l'air immobiles, flottant simplement dans l'air, les ailes étendues, mais il leur suffisait d'un léger mouvement pour se déplacer avec une grâce et une élégance qui donnaient envie d'être avec elles là-haut. Soudain, les chats cessèrent de regarder le ciel et posèrent les yeux sur Fortunata. La jeune mouette observait le vol de ses congénères et, sans s'en rendre compte, étendait les ailes. « Regardez ça, elle veut voler !» fit remarquer Colonello. « Oui, il est temps qu'elle vole. C'est maintenant une mouette grande et forte !» approuva Zorbas. « Fortunata, vole, essaye !» suggéra Secretario. En entendant les miaulements de ses amis, Fortunata replia ses ailes et s'approcha d'eux. Elle se coucha près de Zorbas et fit résonner son bec comme si elle ronronnait. Le deuxième événement eut lieu le lendemain, tandis que les chats écoutaient Vent debout raconter une histoire. Et comme je vous le miaulais, les vagues étaient si hautes que nous ne pouvions pas voir la côte et que, par la graisse du cachalot, pour comble de malheur, notre boussole était cassée. Nous avions passé 5 jours et 5 nuits en pleine tempête et nous ne savions plus si nous naviguions vers la côte ou si nous nous enfoncions vers le large. Alors, au moment où nous nous sentions perdus, le timonier vit un vol de mouettes. Quelle joie, mes amis! Nous nous sommes efforcés de suivre le vol de mouettes et nous avons réussi à atteindre la terre ferme. Par les dents du barracuda, ces mouettes nous ont sauvé la vie. Si nous ne les avions pas vues, je ne serais pas là pour vous miauler cette histoire. » Fortunata, qui suivait toujours avec attention les histoires du chat de mer, l'écoutait en ouvrant de grands yeux. « Les mouettes volent les jours de tempête ? » demanda-t-elle. « Par les tortillements de l'anguille, les mouettes sont les oiseaux les plus forts du monde. Aucun oiseau ne vole mieux qu'une mouette, » affirma Vent debout. Les miaulements du chat pénétraient au plus profond du cœur d'Fortunata. Elle frappait le sol de ses pattes et remuait son bec avec nervosité. « Tu veux voler, jeune fille ?» demanda Zorbas. Fortunata les regarda un à un avant de répondre. « Oui, s'il vous plaît, apprenez-moi à voler. »
Donc voilà, le pas est franchi. Maintenant, c'est Fortunata seule qui a accepté l'idée d'être une mouette et qui veut voler. Alors, dans le bazar de Harry, elle cherche un appui et elle essaye à s'envoler du haut du comptoir déjà. Fortunata battit des ailes, replia ses pattes, s'éleva de quelques centimètres, mais retomba immédiatement, comme un sac. D'un bond, les chats descendirent de l'étagère et coururent jusqu'à elle. Ses yeux étaient remplis de larmes. « Je ne suis pas capable, je ne suis pas capable !» répétait-elle affligée. « Ah ben, on ne vole jamais du premier coup. Il va falloir apprendre et y arriver. Mais je te le promets, tu y arriveras !» miaula Zorbas en lui léchant la tête. Je sais tout, essayait de trouver l'erreur d'apprentissage en examinant encore une fois dans l'encyclopédie la machine à voler de Léonard de Vinci. Fortunata essaya 17 fois de s'envoler et 17 fois elle retomba par terre après avoir réussi à s'élever de quelques centimètres. Je sais tout, plus maigre encore que d'habitude, s'était arraché les poils de la moustache à la suite des 12 premiers échecs et se disculpait par des mouvements tremblants. « Je ne comprends pas. J'ai consciencieusement révisé la théorie des vols. J'ai comparé les instructions de Léonard de Vinci avec tout ce qui se trouvait dans l'encyclopédie à l'article aérodynamique. Et pourtant, c'est vrai, elle n'a pas réussi. C'est terrible, terrible. Comment va-t-on faire ?»« Ah, par la queue de l'arrêt. C'est une mouette et les mouettes volent, » protesta Vent Debout. « Mais oui, elle doit voler. D'ailleurs, je l'ai promis à sa mère. » Et je lui ai même maintenant promis à elle. Elle doit voler, répéta Zorbas. Nous devons tenir cette promesse qui nous concerne tous, ajouta Colonel. Reconnaissons que nous sommes incapables de lui apprendre à voler et qu'il faut chercher de l'aide en dehors du monde des chats, suggéra Zorbas. Mjolkler, Zorbas, où veux-tu en venir ? Demanda sérieusement Colonel. Eh bien, voilà, je suis chat. Et je demande l'autorisation de briser le tabou pour la première fois de ma vie, miaula Zorbas en regardant ses compagnons dans les yeux. Briser le tabou, miaulèrent les chats en sortant leurs griffes en se hérissant. Oui, briser le tabou. Miauler la langue des humains est tabou. C'est ce que savaient les chats. Ils ne devaient pas parler aux humains, même s'ils comprenaient leur langue. C'était un grand risque de parler aux humains. Que ferait-il d'un chat qui parle ? Mais ce jour-là, cette fois-là, il fallait bien avoir recours aux humains pour savoir comment faire voler à Fortunada. Alors, nous allons nous retirer pour discuter ta requête, décida Colonel. La conférence des chats dura de longues heures. De longues heures pendant lesquelles Zorbas resta couché près de la mouette Fortunada qui ne cachait pas sa tristesse de ne pas savoir voler. Il faisait nuit quand la conférence prit fin. Zorbas s'approcha du cénacle pour connaître la décision. « Eh bien, nous, les chats de port, t'autorisons à briser le tabou une seule fois. Tu miauleras avec un seul humain, nous déciderons ensemble lequel d'entre eux et tu lui poseras la question du vol de la mouette, déclara solennellement Colonel. Voilà, ça y est, les chats vont aller parler à un humain. Mais lequel ? Je me demande si on ne devrait pas choisir celui qui vit chez Boubouline, indiqua Zorbas. Boubouline était une très belle chatte blanche et noire qui passait de longues heures parmi les fleurs d'un balcon, un balcon d'un homme qui s'occupait très bien d'elle. Tous les chats du port se promenaient lentement devant elle, montrant l'élasticité de leur corps, faisant briller leur fourrure bien soignée, faisant ressortir la longueur de leurs moustaches, l'élégance de leur queue dressée. Ils essayaient même d'impressionner Boubouline. Mais Boubouline paraissait indifférente et n'acceptait que les caresses de son humain qui s'installait sur le balcon de temps en temps avec une machine à écrire. C'était un humain bizarre qui parfois riait en lisant ce qu'il venait d'écrire et d'autres fois froissait sans les lire les pages arrachées à la machine qu'il venait de taper. De son balcon s'échappait souvent une musique douce et mélancolique qui endormait Boubouline et provoquait de gros soupirs chez les chats qui passaient dans le voisinage. « L'humain de Boubouline, pourquoi lui ?» demanda Colonel. « Je ne sais pas, il m'inspire confiance. Je l'ai quelquefois entendu lire ou relire ce qu'il avait écrit. Ce sont de beaux mots qui rendent joyeux ou tristes, qui donnent du plaisir et qui donnent le désir de continuer à écouter, » expliqua Zorbas. « Ah, c'est un poète !» Un poète ou un journaliste ? Et ce qu'il fait, ça s'appelle de la poésie ? Eh oui, c'est à la lettre P de l'encyclopédie. Alors, pourquoi il te ça te fait penser qu'un humain ou que cet humain peut savoir comment voler ? Voulut savoir Secretario. Il ne sait peut-être pas voler avec des ailes d'oiseau, mais il sait voler avec les mots. J'ai toujours pensé en l'entendant « Il savait voler avec les mots, » répondit Zorbas. « Bon, très bien. Alors, que ceux qui sont d'accord avec le chat, avec le choix de l'humain, du chat Boubouline, lève la patte droite. ordonna Colonello. Et donc, Zorbas fut autorisé à miauler avec le poète. Zorbas prit le chemin des toits pour arriver jusqu'au balcon de l'humain choisi. En voyant Bouboulina étendue parmi les fleurs, il soupira. Avant de miauler, « Bouboulina, n'aie pas peur, c'est moi, Zorbas, qui suis sur le toit, près de toi. »« Qu'est-ce que tu veux ? Qui es-tu, en fait ? » demanda la chatte. « Oh, ne t'en va pas, s'il te plaît. Je m'appelle Zorbas, j'habite près d'ici. D'ailleurs, il y a aussi un balcon dans mon appartement. J'ai besoin de ton aide. Je peux descendre miauler avec toi sur le balcon ?» La chatte lui fit un signe affirmatif de la tête. Zorbas sauta sur le balcon et il s'assit. Il vint la sentir. « Tu sens les livres, l'humidité, les vieux habits ?»« Toi aussi !»« Alors, tu sens l'oiseau, la poussière ?»« Mais pourtant, on voit que ta peau est propre, » constata la chatte. « Ben oui, moi je sens aussi un peu les odeurs du bazar d'Harry, comme toi tu sens les odeurs de l'appartement de ton humain. » Une musique douce arrivait jusqu'au balcon. « Quelle belle musique !» miaula Zorbas. « Oui, c'est Vivaldi, les quatre saisons. C'est joli. Et toi, qu'est-ce que tu attends de moi ?» demanda Bouboulina. « Je voudrais que tu me fasses entrer et que tu m'amènes à ton humain. » « Impossible, il travaille. » Et quand il travaille, personne, même moi, ne peut le déranger, affirma Bouboulina. Je t'en prie, c'est urgent. Je te le demande au nom de tous les chats du port qui m'ont donné l'autorisation de venir. Mais pourquoi veux-tu le voir ? Je dois miauler avec lui. Comment ça ? Franchir le tabou ? Mais non, ce n'est pas possible, miaula Bouboulina, tout hérissée. Mais si, les chats l'ont voté, c'est possible. Et si tu ne veux pas m'amener à lui, je veux qu'il vienne. Allez. Dans l'appartement, l'humain tapait à la machine à écrire. Il était heureux car il était sur le point de terminer un poème et les vers lui étaient venus avec une fluidité étonnante. Soudain, du balcon, lui parvinrent les miaulements d'un chat qui n'était pas sa Bouboulina. C'étaient des miaulements un peu discordants, qui pourtant avait l'air d'avoir un rythme. Ennuyé mais intrigué, il sortit et dut se frotter les yeux pour croire ce qu'il voyait. Sur le balcon, Bouboulina se boucha les oreilles avec les pattes de devant, face à un chat grand, noir et gros, assis sur son derrière, qui rythmait d'une de ses pattes et de sa queue comme la musique d'un instrument de musique qu'il aurait gratté comme une guitare. Et en même temps, il poussait des miaulements exaspérants. Remis de sa surprise, il ne put retenir son hilarité. Et au moment où il se pliait de rire, Zorbas en profita pour se glisser dans l'appartement.
Quand l'humain se retourna, toujours en riant, il vit le chat grand, noir et gros, assis sur un fauteuil. « Quel concert ! Tu es un séducteur original ! » « Mais je crains que Bouboulina n'aime pas ta musique. Quel concert ?» dit l'humain. « Je sais que je chante très mal. Personne n'est parfait, » répondit Zorbas dans le langage des humains. L'humain ouvrit la bouche, se frappa la tête et s'appuya contre un mur. « Mais tu parles ?» s'exclama l'humain. « Toi aussi tu parles, et je ne m'étonne pas. S'il te plaît, calme-toi, » conseilla Zorbas. « Un chat qui parle ?» dit l'humain. En se laissant tomber sur le sofa. « Je ne parle pas, je miaule, mais dans ta langue. Je sais miauler dans beaucoup de langues, » indiqua Zorbas. L'humain porta ses mains à sa tête et se cacha les yeux en répétant « c'est la fatigue, je travaille trop. » Quand il enleva les mains de sur ses yeux, le chat grand, noir et gros était toujours sur le fauteuil. « C'est une hallucination. Tu es une hallucination, n'est-ce pas ?» demanda l'humain. « Non. » Je suis un vrai chat qui miaule avec toi. Les chats du port t'ont choisi parmi beaucoup d'humains pour te confier un grand problème et pour que tu nous aides. Tu n'es pas fou, je suis réel, affirma Zorbas. Alors, je peux en venir au... Tu l'as barré. Et tu dis que tu miaules dans beaucoup de langues ? Demanda l'humain incrédule. Oui. Tu veux une preuve ? Proposa Zorba. Buongiorno, dit l'humain. Il est tard. Il vaut mieux dire buona sera, corrigea Zorbas. Calimera, insista l'humain. Calispera, je t'ai déjà dit qu'il est tard. Doberdan, cria l'humain. Dobroitra, tu me crois maintenant ? Oui. Et si tout ça est un rêve, quelle importance ? Ça me plaît et je veux continuer à rêver, répondit l'humain. Alors, je peux en venir au fait ? Interrogea Zorbas. L'humain approuva, mais lui demanda de respecter le rite de la conversation des humains. Il servit au chat une soucoupe de lait et il s'installa lui-même sur le sofa, un verre de cognac à la main. « Miaule, chat !» dit l'humain, et Zorbas lui rapporta l'histoire de la mouette, de l'œuf, d'Afortunada et des efforts infructueux des chats pour lui apprendre à voler. « Tu peux nous aider ?» demanda Zorbas lorsqu'il eut fini son récit. « Je crois que oui. » « Et cette nuit même, » répondit l'humain. « Cette nuit, tu es sûr ? Regarde par la fenêtre, chat, regarde le ciel. Qu'est-ce que tu vois ? » demanda l'humain. « des nuages noirs, il va pleuvoir, » observa Zorbas. « C'est bien pour ça, » dit l'humain. « Je ne comprends pas, je regrette, mais je ne comprends pas, » reconnut Zorbas. Alors l'humain alla dans son bureau, prit un livre et chercha dans ses pages. « Écoute, chat. » Je vais te lire quelque chose d'un poète appelé Bernardo Axaga, des vers d'un poème intitulé « Les mouettes ». Mais leur petit cœur, cœur d'équilibriste, ne soupire jamais autant que pour cette pluie bête qui amène le vent presque toujours, qui amène le soleil presque toujours. « Je comprends. J'étais sûre que tu pouvais nous aider, miaula Zorbas, en sautant du fauteuil. » Ils se donnèrent rendez-vous à minuit à la porte du bazar et le chat, grand, noir et gros, courut informer ses compagnons.
Ah oui, une pluie fine tombait sur Hambourg et des jardins montaient l'odeur de la terre humide. L'asphalte des rues brillait et les enseignes de néon se reflétaient déformées sur le sol mouillé. Un homme seul, enveloppé dans une gabardine, marchait dans la rue du port en direction du bazar de Harry. Venez ici, tous les deux, dit l'humain en les prenant dans ses bras. Il venait de trouver à la porte le chat et la mouette. Allons, venez, venez vite, mais qu'elle ne se blesse pas, surtout, miaula le chat Zorbas. L'humain, avec toujours dans les bras le chat et la mouette, s'éloigna rapidement de la porte du bazar. Il emportait sous son imperméable le chat grand, noir et gros et la mouette aux plumes argentées. « Ah, caramba ! Ça là va marcher maintenant !» dit Colonello. Par les crocs de la lumière, sur le toit, tous, nous allons voir voler notre Afortunada !» s'écria Vent Debout. Le chat grand, noir et gros et la mouette étaient bien installés sous l'imperméable. Les autres chats suivaient. Et sous l'imperméable, ils sentaient tous les deux la chaleur du corps de l'humain qui marchait d'un pas rapide et sûr. Ils écoutaient tous ensemble leur cœur battre à des rythmes différents, mais avec la même intensité. « Où est-ce qu'on va ?» demanda Zorbas. « Tu comprends le langage de l'humain ?» demanda Afortunada. « Oui, c'est un homme de cœur. Il va t'aider à voler, » lui assura Zorbas. « Tu comprends le langage de la mouette ?» demanda l'humain. « Mais oui. Dis-moi où on va, » insista Zorbas. « On ne va plus, on est arrivé, » répondit l'humain. Zorbas sortit la tête. Ils étaient en face d'un grand bâtiment. Il leva les yeux et reconnut la tour Saint-Michel, éclairée par les projecteurs. Les faisceaux de lumière frappaient en plein la structure svelte recouverte de cuivre, à laquelle le temps, la pluie et les vents avaient donné une patine verte et dorée. « Les portes sont fermées, » miaula Zorbas. « Mais non, pas toutes. Je viens souvent ici, seule, réfléchir, penser, rêver, les jours de tempête. Je connais une entrée, » répondit l'humain. Ils firent un petit quart de tour et entrèrent par une petite porte latérale que l'humain ouvrit avec son couteau. De sa poche, il sortit ensuite une lampe, et éclairé par le mince rayon de lumière, ils commencèrent à monter un escalier en colimaçon qui paraissait interminable. « J'ai peur, Pépia Fortunada. »« Oui, mais tu veux voler, n'est-ce pas ?» interrogea Zorbas. Du clocher de Saint-Michel, on voyait toute la ville. La pluie enveloppait la tour de la télévision, là-bas, et sur le port, les grues ressemblaient à des grands animaux au repos. « Regarde, en bas, on voit même le bazar de Harry. C'est là d'où nous venons, miaula Zorbas. »« J'ai peur, maman !» cria Fortunada. Zorbas sauta sur la balustrade qui protégeait le clocher. En bas, les autos ressemblaient à des insectes aux yeux brillants. L'humain prit la mouette dans ses mains. « Non, non, j'ai peur, Zorbas, Zorbas » cria-t-elle en donnant des coups de bec sur les mains de l'homme. « Bon, attends, pose-la bien sur la balustrade, » miaula Zorbas. Ben « Oui, je ne voulais tout de même pas la lancer, » dit l'humain. « Alors, écoute, Fortunada, respire, sens la pluie, c'est de l'eau. Dans ta vie, tu auras beaucoup de raisons d'être heureuse, et l'une d'elles s'appelle l'eau, une autre le vent. » Une autre, le soleil, qui arrive toujours comme une récompense après la pluie. « Tu sens la pluie ? Ouvre les ailes, miaula Zorbas. » La mouette ouvrit les ailes. Les projecteurs la baignaient de lumière et la pluie saupoudrait ses plumes de perles. L'humain et le chat la virent lever la tête, les yeux fermés. « Ah oui, la pluie, l'eau, j'aime la pluie. « Tu vas voler, » assura Zorbas. « Je t'aime. » « Tu es un chat très bon » cria-t-elle en s'approchant du bord de la balustrade. « Tu vas voler. Le ciel tout entier sera à toi, » miaula Zorbas. « Je ne t'oublierai jamais, ni les autres chats » cria-t-elle, les pattes à moitié au dehors de la balustrade, comme le disaient les vers d'Atskova. Son petit cœur était celui des équilibristes. « Miaule ! Non, vole !» dit Zorbas en tendant une patte et en la touchant à peine. Il la poussa si légèrement. Fortunada disparut de leur vue. Le chat et l'humain, un instant, craignirent le pire. Elle tombait comme une pierre. Mais en retenant leur respiration, en passant la tête par-dessus la balustrade, ils la virent qui battait des ailes, qui tendait ses ailes, qui survolait le parking. Et puis ils la virent remonter, bien plus haut que la girouette d'or qui couronnait la beauté singulière de la tour Saint-Michel. Fortunada volait, solitaire, dans la nuit de Hambourg. Elle s'éloignait en battant énergiquement des ailes pour s'élever au-dessus des grues du port, au-dessus du mât des bateaux. Puis elle revenait en planant et tournait autour du clocher de l'église. « Je vole, Zorbas, je sais voler !» criait-elle, euphorique depuis l'immensité du ciel gris. L'humain caressa le dos du chat. « Eh bien, chat, on a réussi, dit-il. Eh oui, au bord du vide, elle a compris le plus important, miaula Zorbas. Elle a compris que seul vole celui qui ose le faire, miaula Zorbas. Eh oui, c'est le plus important. Voler, miauler, se comprendre, comprendre les autres. À bientôt pour d'autres aventures. »